Chaque samedi, je vous convie à un voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Il promenait son corps comme on promène une légende. Grand, filiforme, un éternel chapeau rond vissé sur les dreadlocks et la barbichette en bataille. Travailleur immigré, devenu producteur de spectacles, l'homme incarnait le destin politique de la musique africaine moderne. Aujourd'hui, Abdourahmane Waberi et Angélique Thibault vous proposent Mamadou Konté, c'est toute une vie de lutte pour les droits des travailleurs immigrés.
Mon histoire, si j'ai réfléchi moi-même, c'est vrai que je suis né immigré d'abord, en étant né de parents immigrés du Mali au Sénégal, né au Sénégal 2 ans après, retourné à l'âge de 2 ans avec mes parents au Mali, grandi au Mali jusqu'à l'âge de 17 ans, à partir de 17 ans immigré en France, je suis retourné au Sénégal, quelque part je suis immigré permanent.
Mamadou Konté, 1945 ou 1946, 2007.
Quand vous voyez un homme comme Mamadou, d'où il est parti, où il est arrivé, c'est une leçon de vie. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à avancer, à construire, à se construire, à construire sa vision du monde, à construire sa relation avec les autres. Il a quand même obtenu une reconnaissance, il est chevalier des arts et des lettres, il était reconnu par toutes les institutions, il a fait un travail formidable pour la musique africaine.
Looking for Mamadou Konté. Abdourahmane Waberi, Angélique Thibault. Looking for Mamadou Konté. Le mercredi 19 juin 2019 a marqué le 12e anniversaire de la disparition de Mamadou Konté. Aucune cérémonie officielle, cependant, les proches éparpillés aux quatre coins du monde ont échangé photos de souvenirs et témoignages chaleureux.
Pour moi, je suis pas très bien organisée.
Contrairement à Mamadou.
Non, mais Mamadou, il était quand même... C'était bordel, mais... Ah non, il n'était pas papier, mais bon.
Cécile Rata.
Parce qu'en France, on est aussi très papier. Hein. Mais en Afrique, c'était moins papier. Ça allait. Non, mais je ne veux pas les avoir,
Mais qui était donc cet homme dont la mémoire des merci vive auprès des divers cercles? Sa biographie se résume à une poignée de dates. La légende de Mamadou Konté est riche et vivace. Elle invente sans cesse une étoffe pour habiller avantageusement l'intéressé.
Ça, c'est une photo que...
C'était mon Mamadou.
Mon amie Olivia Moura a pris, je pense, en 2005 à la Friche, juste là derrière.
Je n'ai jamais rencontré la longue silhouette filiforme de Mamadou Konté. Et pourtant... Son éternel chapeau vissé sur les dreadlocks, son sourire proverbial et sa barbichette en bataille me sont aussi familiers que les traits de mon propre père.
Grand, très grand, 2 mètres, fin, long, avec son chapeau, comme d'habitude, vissé sur le crâne, ses logs, une cigarette à la main, marchant d'un pas assez nonchalant. Il n'était jamais pressé, il marchait toujours de manière tranquille, un peu voûté. Et bon, là, c'est comme s'il nous dit adieu. Alors, c'est pour ça qu'on avait gardé cette photo. Mais si on l'avait eu de face, j'imagine que souriant et à aller de l'avant. Il rêvait, quoi. Il marchait certainement qu'il est en train de marcher en se disant, en pensant à un nouveau projet.
On a beaucoup appris.
Il a passé sa vie à mettre les uns en contact des autres. Il disait sur tout le temps
on a appris en marchant.
Que son rôle était de rapprocher la montagne noire de la montagne blanche.
On a appris en comprenant l'autre.
Les Africains des Européens.
Tu veux écouter Mamadou Madi ?
Bah oui.
La musique était son outil de prédilection.
Mamadou Madi, Mamadou Madi.
Et voilà. Là, tu vois tout de suite le petit galure là, sur le haut.
François Bentignor. Critique musicale.
Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti.
Ah, c'est marrant. En fait, c'était à l'époque, François Béranger, il y avait une maison de prod qui s'appelait l'Escargot Folle. Escargot Folle, carrément.
Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris.
Mamadou est allé le voir, discuter avec. En fait, je crois qu'il l'avait dit, il l'avait vu à un gala de soutien. Et puis, voilà, ils avaient discuté à la fin du concert, et puis lui avait dit bon, qu'il avait besoin d'aide pour son prochain concert, qui n'était pas encore Africa Fête d'ailleurs, je crois. Hein. Et c'est à ce moment-là que Mamadou était toujours très fier de dire François Béranger, il a payé toutes les affiches. Non, mais il était très convaincant, Mamadou.
Né vers 1945 ou 46 en pays soninké, Mamadou Konté se joue des assignations à domicile. Pour certains, il est malien. Pour d'autres, il s'est fait sénégalais et a choisi Dakar pour domicile final. Jeune, noir, illettré, immigré, musulman, sans papier. Ouf, que d'obstacles. Personne n'éparerait un sou sur le sort du Soninké, qui était censé finir ses jours où il avait commencé sa carrière, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle, dans la France du deuxième gouvernement de Georges Pompidou. Mais c'était sans compter avec l'esprit libertaire de mai 68.
J'ai dû rencontrer Mamadou la première fois, ça devait être fin 1971 ou début 1972.
Nous, on estime qu'on n'est pas des prisonniers dans ces foyers. C'est que la Sonacotra appelle les palaces.
Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est le contexte.
Dans sa publicité, qu'il a monté, qu'il a construit des foyers aux travailleurs immigrés qui étaient dans les bidonvilles, qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas payer les loyers. C'est le contraire, c'est complètement le contraire à ce que nous, on demande. Nous, on demande de la liberté dans ces foyers.
Le contexte, c'est des mouvements...
Bernard Dreyano.
Révolte ou de lutte contre des conditions de vie absolument déplorables dans les foyers de travailleurs immigrés en général et dans les foyers de travailleurs immigrés africains en particulier.
Une chambre comme ça, on peut dire 5 à 6 mètres carrés. À peu près, on peut être à peu près à 5 à 6 qui habitent dedans avec les mêmes toilettes, les mêmes...
Et Mamadou Konté est un de ces travailleurs africains.
La condition de vie était très mauvaise. Quand il y en a un qui est malade, on était tous vraiment malades.
Émission, mot d'ailleurs, 2005, pour Radio Grenouille.
Donc les étudiants qui venaient nous visiter après 68, leur rôle c'était de nous expliquer que les conditions dans lesquelles que vous vivez, c'est ça qui vous rend malade.
Et moi je suis à l'époque un militant.
Ce que vous pouvez faire, c'est de vous regrouper.
La gauche révolutionnaire ou l'extrême gauche.
Créer des comités de locataires.
Milite avec des.
Qui vous permettrait de lutter contre les mauvaises conditions de vie. Vous allez voir que ça va changer.
Je crois qu'on ne réclame pas de dominer la France. Vous aurez remplacé le président de la République.
Autrement, vous êtes d'accord sur le principe de payer un loyer.
Automatiquement. Mais j'y suis en France depuis 1953. J'ai toujours payé un loyer. J'habite d'Alfoy et son Acotra depuis octobre 73, simplement. Alors, je ne dis pas que je ne paye pas de loyer. J'y suis d'accord à payer un loyer, mais juste. Un loyer, juste. Ni plus, ni moins.
Voilà ma ville. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai.
Et c'est comme ça que des Français vont aider des Africains à constituer des comités de lutte locaux dans chaque foyer, avec comme arme la grève des loyers pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie. Hein. Et dans ces foyers, il y en a un qui est rue Lénine à Pierrefitte. Donc on appelait ça le foyer Lénine, dans le contexte de l'époque, c'est assez rigolo. C'est un bâtiment industriel reconverti dans des conditions d'hygiène assez déplorables en foyer, avec 800 personnes qui y habitent, pour un hébergement normal de 300, à peu près, hein. Donc c'est complètement surpeuplé. Et dans ce foyer, il y a une figure qui s'appelle Mamadou Konté, qui tout de suite impressionne par son charisme, par son intelligence, par sa curiosité et par ses capacités d'entraînement. Pour vous donner une idée, dans un foyer comme le foyer de Pierrefitte, l'immense majorité des résidents sont à l'époque analphabètes. Mamadou avait appris à lire dans Le Monde et dans des choses comme ça, mais il n'aimait pas écrire et il n'a jamais vraiment écrit. Je me rappelle remplir des chèques pour lui.
Moi, tout ce que j'ai appris dans la vie moderne, c'est que j'ai appris réellement dans les livres que j'ai lus pour me cultiver, c'était le marxisme. C'est-à-dire dans les livres de Karl Marx ou de petits livres de Mao Zedong, tout ce que j'ai lu moi, mon histoire, que je connais dans la vie moderne, c'était celle-là. Mais sinon, tout le reste m'était raconté par les griots.
Alors, 1, 2, 3, c'est ça. Jacques Sonsem, étudiant en médecine. J'ai dû abandonner mes études dans le cadre des conflits avec l'extrême droite, avec tout ce qui s'est passé à Marseille à cette époque. J'ai dû quitter la ville. On a commencé à créer des radios libres à partir de Paris dans les années 77, 78. Et en 81, quand Mitterrand est revenu au pouvoir, je suis revenu à Marseille. J'ai créé une radio qui s'appelle Radio Galerne. J'ai dirigé le développement des radios libres en France. Après, je suis passé à la coopération avec les radios africaines, telles que je vous l'ai décrit. Et voilà. Tu imagines, on a créé la cellule immigrée à Marseille juste avant et au moment de ce qu'on a appelé la ratonnade oubliée, c'est-à-dire cette montée du fascisme, du racisme à Marseille, au moment où c'était surtout les Algériens, les Arabes, Tunisiens aussi, se faisaient courser dans la ville, assassinés par les fascistes. Enfin, ça a commencé en 71, 72. En 73, il y a eu l'assassinat du Tramino Guerlache par un schizophrène algérien qui a lancé le Méridional, qui était un quotidien, un des trois quotidiens à Marseille, qui appelait à la haine raciste tous les jours, a lancé une campagne ahurissante d'une violence incroyable. Et dès le lendemain, des noyaux d'extrême droite, certains liés à l'OS, ont traqué les Algériens à Marseille. Et il y a eu 10, 20, 30, 40, 50 morts, on ne sait pas exactement, mais ça a été énorme jusqu'à l'attentat du consulat d'Algérie. Et donc on avait créé la cellule immigrée un peu avant. Et on avait commencé à discuter des questions de retour au pays, de création du... Et donc on avait avancé l'idée d'une de Révolution Afrique, mais Révolution Afrique s'est constituée à Paris.
Moi, je suis Bernard Dréhanneau, né en 1947, donc de la génération 68 Arne. Pris dans la grande tourmente des années 60, je deviens militant d'extrême gauche, dans la fondation de ce qui va devenir la Ligue communiste révolutionnaire, puis dans une organisation qui s'appelle Révolution, qui en est issue. Et dedans, il y a deux personnages qui vont jouer un rôle très important, y compris pour Mamadou, un Français, Gilles de Staël, et une Réunionnaise, sa compagne, Madeleine Beauséjour, cinéaste, et qui vont aller au devant des travailleurs africains sur ces histoires de lutte contre l'habitat insalubre. Ce groupe de militants d'extrême-gauche français va constituer avec des Africains un groupe politique qui s'appellera un peu plus tard Révolution Afrique. C'est un personnage de roman, lui tout seul, Gilles de Staël. Si on veut le comparer à quelqu'un, ça serait à Corto Maltese, physiquement et psychologiquement. Hein. Corto Maltese de la bande dessinée des Gauprates. Ouais, ouais. Je dis ça parce que Gilles de Staël a très bien connu Gauprates à Pif le Chien. Le journal Pif le Chien, ouais, ouais. Dans lequel Gilles de Staël faisait ses débuts non pas comme dessinateur, comme journaliste, et Hugo Pratt faisait une bande dessinée à l'époque pour Pif le Chien, et Gilles de Staël lisait le courrier des lecteurs. Mm-hmm. Le courrier des lecteurs qui était des enfants. Mm-hmm. Donc en fait, à partir des vraies lettres d'enfants, il réécrivait des fausses lettres d'enfants, mais qui pouvaient passer dans le journal. Parce que, bon, et ça faisait beaucoup rire Mamadou, ça, par exemple, hein, qui était absolument génial. Bon. Donc, il faut bien comprendre que on est amis. Enfin, je veux dire, c'est pas des militants... désincarnés qui n'ont pas de vie, se contentent de scander des slogans. C'est parce que c'est des histoires de relations humaines. C'est-à-dire les liens qui se tissent, se tissent pas pour 2 mois. Ils se tissent pour 100 ans. Dans une réunion où je m'embêtais, j'avais griffonné une Afrique point fermé qui est devenue le sigle du mouvement. Donc, tout ça se fait en même temps. Cette répression utilise un décret-loi de 1939. À l'époque, les associations étrangères sont contrôlées. C'est-à-dire que si vous êtes une association avec une majorité de ressortissants étrangers, la loi de 1901 ne s'applique pas. Et donc, on peut à peu près faire ce qu'on veut, la dissoudre comme on veut, ce qui rend difficile l'organisation des travailleurs immigrés. Et puis à un moment donné, à la fois parce que c'est une décision des ministres de l'Intérieur français, à l'époque Poniatowski, sous Giscard, et parce que c'est une pression des pays d'origine, je pense en particulier à la dictature malienne de Moussa Traoré, qui a ses flics qui sont en France, l'organisation de Mamadou, Révolution Afrique, est interdite. L'interdiction de l'organisation de Mamadou provoque un mouvement de solidarité très important, dans lequel tout de suite des artistes et des personnalités françaises vont s'impliquer. Alors il y avait des personnalités comme René Dumont, par exemple, évidemment très branché sur l'Afrique, qui était déjà en très étroit contact avec Mamadou personnellement. Mais il y avait aussi, par exemple, Guy Bedos. Par Guy Bedos et par d'autres se fait le contact avec des musiciens, des chanteurs, et l'organisation d'un grand concert de soutien à l'organisation interdite Révolution Afrique, et avec un personnage qui s'appelle Gilles Blévès, qui dirigeait à l'époque les disques L'Escargot, qui était un petit label de disques, qui avait dans son catalogue le chanteur contestataire connu de l'époque dans les milieux militants, qui s'appelait François Béranger, le futur auteur de Mamadou Madi. Magnifique, et évidemment c'est une histoire vraie d'un bout à l'autre. Mamadou Madi, c'est bien ce que Mamadou a dit à François Béranger. Et donc se crée ce mouvement de solidarité, mais qui est aussi un mouvement culturel.
Deux miroirs doués du
Quand on faisait des meetings, il y a très peu de gens, même les immigrés. Mais quand on faisait des meetings suivis d'une prestation scénique, musicale, d'un artiste, c'est là où il y avait le public, aussi bien les Français que les immigrés.
Il y a d'abord ce concert de soutien, un concert politique à la mutualité de soutien, et puis ensuite va se créer les Africa Fêtes. Donc les Africa Fêtes, c'est l'idée, on ne fait pas simplement un meeting musical, on va faire vraiment une activité artistique, avec aussi derrière une idée qui, à partir de 1976, se développe dans la mouvance dans laquelle se trouve Mamadou, qui est, il faut favoriser le retour des militants en Afrique, ou de ceux qu'ils veulent, du moins en Afrique, mon Lord. Et on va créer une association spécialisée, qui s'appelait l'Association pour le retour créateur des Africains, et pour le financer, on va faire des concerts Africa Fête. Pierre Akadengue, par exemple, avec par exemple le groupe Tourekunda, mais aussi avec une implication de François Béranger, dont j'ai déjà parlé, mais on n'imagine pas à quel point c'est large. Il y a l'Algérien Jamel Alam, par exemple, qui participe à toutes les Africa Fêtes, mais il y a Marcel Amont, qui est à l'époque une très grande vedette populaire. Il y a Lavillier qui vient en ami, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement on va faire un truc africain. C'est vraiment un mélange. Et puis, en dehors des concerts, les gens continuent à se fréquenter.
Africa Fête, c'est vraiment un concept complet de convivialité. C'est-à-dire que dans Africa Fête, il y a toujours la cuisine qui rentre, il y a toujours les artisans qui viennent, et c'est toujours les Africains qui sont aussi impliqués dans l'organisation de l'événement, quoi.
Donc, il est chef de village aussi,
c'est ça. Africa Fête, c'est vraiment un moment important. Parce que à cette époque où il n'y a pas du tout de musique, de diffusion de musique africaine, excepté dans ce qu'on appelle les ghettos, hein, où là on ne sait pas, bon, il y a un tel qui joue, ah oui, on l'a, il y a pas d'affiche, il y a pas de, enfin, où il y a des affiches juste dans le quartier ou des trucs comme ça, ou à Montreuil, voilà, il y a une grande griotte qui arrive, bon, toute la communauté de Montreuil vient. Pour le concert, mais personne en dehors n'est au courant. Et Africa Fête, c'est quand même le moment où, ben voilà, on communique pour tout le monde. Ce que je trouvais assez intéressant, je réalisais un truc ce matin, l'hommage qu'avait écrit Gérald Darnaud sur Mamadou Konté, et il dit, et ce que je trouve effectivement très pertinent, le concept Africa Fête aurait inspiré Jack Lang pour la fête de la musique.
Donc il a fait sortir les foyers oui, de son enclave.
Voilà, c'est ça. Où il a recréé ce qu'il a expérimenté dans les foyers, il l'a recréé ailleurs.
Il est issu d'une famille qui a bougé, qui a voyagé. Il est aussi l'aîné de la famille qu'on a choisi pour envoyer, donc à l'époque, comme il le dit, c'est en France, mais ça aurait pu être ailleurs. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est en France. Il est tout jeune, il a 17 ans. Il part, il n'a rien dans les poches.
Je suis parti seul de mon village. J'ai fait à peu près 80 km à pied pour arriver dans la première grande ville qui s'appelle Kayes.
Il y a un peu de cotisation.
Kayes, où il y a le train qui vient du Sénégal, qui va vers Bamako.
Jusqu'à la grande ville. Et puis
et Kayes, je suis resté à peu près 3 mois pour pouvoir avoir un transport pour payer les trains. 3 mois après, j'ai travaillé n'importe quel travail.
Il arrive, après, il avait un bout de papier.
Donc,
ce qui m'avait
c'est accumulé, un peu d'argent économisé.
Il avait un bout de papier avec l'adresse du foyer. Et il arrivait, il cherchait juste ça, il montrait pour qu'on le puisse, on puisse l'amener
voilà, à Bamako.
Au foyer. Donc.
Quand je suis arrivé à Bamako, Bamako s'est travaillé pendant 8 mois. 8 mois après, j'ai vu un peu d'argent pour avancer vers Koutiala. Koutiala, c'est une ville intermédiaire entre Burkina Faso et le Mali. Là, j'ai acheté à peu près 6 moutons. Avec ces 6 moutons, j'ai allé à pied avec les moutons-là pour Ouagadougou, la grande ville de Burkina Faso. J'ai vendu ces moutons. J'ai pris un train pour aller à Abidjan. D'Abidjan, je suis resté à peu près 15 jours pour comprendre comment on peut aller en France. Et je n'avais pas assez d'argent pour venir en France. J'ai pris le train et le bateau clandestinement. À l'époque, ce qu'on faisait, bon, comme le bateau, pour charger le bateau, il y a les matelots et on se mélange à eux. Il suffit de les aider à charger le bateau. Quand tu les aides à charger le bateau, tu peux trouver un moyen de te cacher dans un coin et puis, une fois qu'on découvre que tu es dans le bateau, c'est trop tard. Ça s'est passé comme ça. Quand je suis arrivé à Marseille, à Marseilla, le bateau. Quand j'ai arrivé à Marseille, j'étais dans Marseilla.
Fondamentalement, Mamadou s'était forgé un certain nombre de valeurs à travers son passé, sa jeunesse avant de rencontrer l'exercice militant, les militants de France, etc. Et dans sa progression dans la militance, il s'était forgé un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, il les a gardées. Il était, il avait changé de domaine, c'est tout. Il n'était plus dans le domaine politique. Il avait bien compris que lui ne serait pas l'acteur d'un changement politique, qu'il n'allait pas prendre le pouvoir à Dakar ou à Bamako, qu'il appelait pas, que son histoire allait pas être ni de faire une révolution, ni d'administrer l'un des pays d'Afrique, et que, comme le disait le dirigeant communiste italien, il faut d'abord changer la culture, il faut que les données culturelles changent pour que le monde puisse changer, et lui s'était dit qu'il allait s'attaquer aux données culturelles.
De l'association Cola Production ici à Marseille qui représente le festival Africa Fête.
Nous sommes où ici ?
Nous sommes à la Friche Label de Mai et on est dans les bureaux d'Africa Fête Marseille, une association qu'on a appelée Cola Production. Cola Production, on l'a créée ensemble avec Mamadou en 2002, au moment où Mamadou habitait au Sénégal et avait relancé les activités d'Africa Fête au Sénégal. Et on a eu l'idée de refaire une antenne française qui avait existé au départ, puisqu'au départ Africa Fête était née à Paris. Et donc on s'est dit qu'on allait s'installer à Marseille. Et c'est comme ça qu'on a eu les bureaux, on a eu la chance d'être accueillis à la Friche. Et Africa Fête, c'est vraiment pour moi un héritage qu'on a eu, qui est arrivé dans mes mains parce que je me trouvais là à ce moment-là. On fait vraiment un travail de chantier, on va dire. On n'est pas du tout outillé comme un agent tourneur ou une maison de disques pour pouvoir faire décoller des grandes carrières artistiques. Mais par contre, on est capable de repérer des artistes qui nous semblent intéressants en devenir et qu'on souhaite après une longue vie, un peu ce que Mamadou a fait, puisque Mamadou, bien sûr, c'est pas dans la même proportion, parce que lui, en plus, il est arrivé en pleine période de la world music, donc du coup son parcours a été exemplaire et il a accompagné la carrière d'artistes aujourd'hui qui sont très connus.
À cette époque des années 80,
forcément,
tous les artistes qui émergent en France, ils ont déjà une énorme carrière chez eux, mais le public et le business ne les connaît absolument pas. Personne ne les connaît. Et en fait, quand il fait venir Youssou N'Dour pour Africa Fête 1984, c'est à ce moment-là que Peter Gabriel vient de Londres parce que enfin, il va pouvoir rencontrer Youssou N'Dour, dont il a entendu la voix et qui sait que c'est vraiment un artiste génial. Et il va pouvoir aller backstage pour parler, le rencontrer, voir ce garçon. Et à l'époque, Youssou N'Dour, il s'en moque complètement. Ça lui décrit c'est quoi ce blond-là qui vient me chercher. Et ça donne la fameuse chanson Shaking the Tree, où ils chantent tous les deux ensemble. Il y a un super clip, tu sais, ils sont dans une pirogue comme ça, ils descendent.
Mamadou, il m'a dit clairement, voilà, Cécile, j'ai pas d'argent, mais j'ai le logo, donc prends le logo et puis essaye de faire ton trou à Marseille, quoi. Donc, moi, ce qui m'avait touché, c'est toute la confiance qu'il m'avait donnée alors que j'étais toute jeune et que je connaissais pas grand-chose en musique africaine et ni en gestion.
Mamadou, c'est ça, c'est aussi, mais c'est quelqu'un qui en impose quand même.
Moi, je me rappelle très bien quand j'ai appris. J'ai vraiment appris à travailler avec lui. Le budget, parce que c'était un monsieur budget aussi, il aimait bien, il avait ses grands doigts avec la calculatrice et il aimait bien calculer. Et le budget était fait à partir du salaire que l'artiste avait besoin quand il partait en tournée, par exemple, qu'il laisse sa famille pendant un mois, qu'il revient. Quelles sont ses charges et est-ce qu'avec une tournée de un mois, combien de mois il est capable de nourrir sa famille correctement. Donc ça partait de façon très concrète. Et comme on était entouré d'artistes, de musiciens avec qui on travaillait presque d'une manière exclusive, ils n'avaient pas d'autres patrons. Donc du coup, on était aussi assistante sociale, on était aussi médecin. Quand il y avait un problème, venez voir Mamadou pour tout et n'importe quoi. On était vraiment le référent aussi financier. La base, c'était ça. C'était, il faut au minimum ça par artiste, donc ça par tournée. Si j'embarque un groupe dans un projet, il faut que ça puisse nourrir toute la famille qui est derrière. Et tu peux pas envoyer quelqu'un à moi et qui peut pas ramener un sac de riz au moins.
Oui, il en impose. Et tu es heureux qu'il te reconnaisse. Et c'est ça aussi sa grande puissance. C'est qu'il a toujours su reconnaître les gens, à quelque niveau qu'ils soient. Et sans se faire marcher dessus. Ah, c'est ça qui est important. Moi, j'ai toujours été complètement halluciné du fait que Chris Blackwell dise à Mamadou Konté, viens, tiens, moi je te file un label, fais ce que tu veux, boum. Alors que Mamadou, franchement, c'est pas un business pour gagner de l'argent, quoi. Ça, on peut le dire. Voilà, du coup, avec Chris Blackwell, qui est réputé être, qui se fait de l'or sur le dos de Bob Marley, etc. Mais il a quand même dit à Mamadou Konté, vas-y, allez, moi je te finance.
Il a 3 éditions à New York.
Ouais, mais les premières relations avec Chris Blackwell, c'est donc 87, moi je dirais, où Blackwell a dit, les artistes africains, ça va révolutionner le monde du business. À l'époque, Mamadou était le manager de Salif Keita. Il y avait le fameux album Soro, l'album référence qui est sorti, donc Soro, sorti en 1987.
Quand un artiste venait avec sa cassette, il écoutait, réécoutait, rembobinait. À l'époque, c'était encore les cassettes là, vraiment pour s'imprégner du morceau. Et oui, il avait, je pense que de pas développer aussi l'écrit, ça, tu développes autre chose. En tout cas, lui, il avait aussi beaucoup passé de temps en studio, à travailler avec des musiciens compositeurs, par exemple avec Salif Keita, avec qui il a cheminé pendant presque 15 ans. C'est un compositeur, donc du coup, on s'inspire aussi de la musique. Et il avait le nez fin pour repérer. Après, il avait vu en fait qu'en France, beaucoup d'artistes s'étaient fait avoir parce qu'ils ne savaient pas lire les contrats, parce que surtout à l'époque, les maisons de disques étaient vraiment des empires incroyables. Et donc du coup, l'artiste, une fois qu'il était signé, il était bloqué. Et Mamadou se rendait compte que non, il fallait décrypter, il fallait comprendre, pas se faire marcher. Et quand il en sauvait un, il sauvait d'autres en fait. Donc du coup, il avait envie de transmettre tout ça en arrivant en Afrique pour donner des outils aux gens. Donc il avait aussi il avait l'oreille musicale, mais il y avait aussi l'oreille, enfin le nez fin pour repérer certaines entourloupes, il était devenu finalement avocat aussi, il arrivait à repérer, à écrire les contrats qu'il voulait, quoi.
Mamadou Konté, il manageait Salif Keita, il avait dans les mains cet album qui était magnifique, et cet album, il a été distribué partout dans le monde. Et il a été reconnu par Santana, par Miles Davis, par toutes les stars internationales de l'époque, comme un album fabuleux, extraordinaire. Et ben voilà, il a aussi envoyé l'album à Chris Blackwell. Et Chris Blackwell, évidemment, il a craqué. Il a craqué et donc il a signé Salif Keita, qui est devenu un artiste thaïlande. Et donc, Mamadou, il est là. C'est comme il dit toujours, le monde africain dans la montagne noire et la montagne blanche, et ils se comprennent pas, et ils ont rien à se dire, ils se confrontent. Et lui, il est là comme tampon pour faire se comprendre les deux. Et ensuite, et donc il a aussi, à l'époque, il n'était pas le manager de Angélique Kidjo, mais Angélique Kidjo était venue lui demander conseil, et d'ailleurs il l'a accompagné par la suite, notamment pour les premières tournées américaines d'Angélique Kidjo, c'est Africa Fête qui les a produites, c'est dans le cadre d'Africa Fête qu'elle a été connue aux États-Unis, et c'est grâce aussi à ses premières tournées Africa Fête aux États-Unis qu'elle est arrivée à faire la carrière américaine extraordinaire qu'elle continue à faire. Hein, voilà. Donc et c'est pareil, c'était Mamadou qui avait envoyé l'album d'Angélique, le deuxième album d'Angélique, à Chris Blackwell, il a envoyé un télégramme aussi sec dès qu'il l'a eu reçu. Chris Blackwell a envoyé le télégramme à Mamadou en disant il faut signer ça tout de suite, signer Angélique tout de suite. Je la veux sur mon catalogue. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Mais ce qui est bien, c'est beau parce que Mamadou, finalement, il n'a pas vu les paillettes, machin, tout d'un coup briller dans le ciel. C'était pas son problème.
Vous savez, quand on arrive ici, on est ébloui surtout par les lumières. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé la nuit à Marseille. Bon, chez moi, il n'y a pas une lampe, c'est-à-dire les lampes torses. Mais quand j'ai dit torse, c'est des torses en bois qui est fait à l'aide de l'huile qu'on fabrique nous-mêmes et qui nous permet d'éclairer. Bon, c'est lui qui a le torse à pile, c'est les gens qui peuvent s'acheter des piles. Mais acheter des piles, c'est avoir de l'argent pour acheter des piles. Même si c'est 10 francs, 10 francs c'est presque rien, mais il n'y a pas, quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Mamadou Konté, je l'ai rencontré à nos débuts ici quand je suis venu.
Cher Tidiane Sec, musicien, chef d'orchestre.
Avec Salif Keita, on avait, dès que je suis arrivé, quoi, juste avant l'album Soro. À l'époque, j'étais un petit loup guerrier de scène parisienne parce que je jouais avec toutes les communautés. En fait, je passais d'une communauté à l'autre. Des Congolais, Antillais, Brésiliens. J'ai joué, j'étais mangé à toutes les sauces en fait. Et j'aimais beaucoup. Et Paris, c'était ça, quoi. Tu sors, tu ne sais pas le nombre de sessions qui t'attendent, quoi. Je me souviens de lui hein, dans nos répétitions avec Salif, discret dans son coin, mais il avait beaucoup de discernement, tu vois. Et je vois ce flegme. Il avait plus qu'une oreille musicale, il avait le don de sentir l'humain dans la création. Et donc, c'était ça, un grand frère, quelqu'un qui folklorique, mais ordonné. C'est Mamadou. Tout ce qu'il a touché avait quand même été immaculé pour moi. Et tu témoins de cela, je peux le certifier. Donc, Mamadou, c'était cela aussi, au-delà de l'homme au long doigt. Je lui disais chaque fois, je lui disais, mais tu sais, je prends ses doigts comme je dis, mais tu devrais jouer du piano plutôt. Il rigole, mais tu comprends, mon frère. J'adorais le charrier, Mamadou. Il me manquera toujours de tout le temps.
Quatre mois après, j'ai acheté un billet. C'était 400 francs, le prix de bateau, pour revenir à Marseille. Je suis revenu à Marseille. De Marseille, j'ai pris un train que je n'ai pas payé. Jusqu'à Paris. À Paris, je suis arrivé à Gare de Lyon.
Je trouvais que c'était assez intelligent ce qu'il avait dit à l'époque, là, dans son hommage à Mamadou Konté. Et c'était enfin très perspicace. C'est qu'en fait, les Soninké, a priori, ils ne restent pas chez eux, c'est des voyageurs.
Au foyer, donc, quand même à 17 ans, c'est en parlant de voyage initiatique, c'est pas rien. Et il avait. Dans l'esprit de gagner de l'argent pour ramener après à la famille. Donc c'était je voyage, je découvre, mais surtout je travaille pour ramener au pays.
Les Soninké, il faut qu'ils voyagent. Si dans une famille, si un enfant n'a pas voyagé, ben, il n'est rien, il ne représente rien.
Mamadou a un projet de retour en Afrique. Il sait qu'il ne sera pas le chef de village qu'il aurait pu être. Donc il a rompu avec une thèse de tradition. Ça, il ne va pas retourner dans l'agricole. Il est. En fait, il est né au Mali, mais il va être assimilé sénégalais. En fait, il est né à la frontière. Et d'ailleurs, la frontière entre le Mali et le Sénégal et la Mauritanie, ce n'est pas tout à fait évident. Mais à l'époque, le Mali est beaucoup plus dictatorial que le Sénégal. Donc, il vaut mieux être sénégalais que malien pour circuler. Et donc, il va développer, à partir du Sénégal et non plus à partir de la France, une activité de producteur et une activité, je dirais presque syndicale, de défense de la notion de droit d'auteur, qui est une nouveauté pour les Africains. Il va aussi bénéficier de ses anciens soutiens militants, par exemple, des gens du CDTIM. Le CDTIM, c'est un centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, dont je fais partie à l'époque, Il a été créé à la fin des années 60. C'est un des mouvements incubateurs de ce que deviendra le mouvement altermondialiste dans les années 2000. Avec un grand projet qu'il appelait le commerce triangulaire inversé. C'est-à-dire l'idée, on va faire des activités culturelles inversant l'image de la traite quelque part entre Dakar, New York et Nantes ou la France. Je dis Nantes parce que c'est un port négrier. Symboliquement, ça pouvait avoir un sens. En même temps, Mamadou va développer sur place au Sénégal une structure qui s'appelle Tringa, dans un ancien bordel de l'armée française.
Tringa aussi, c'est le village, c'est son village,
oui,
de naissance.
C'est son village de naissance. Bon, qui est aussi un lieu pour avoir des jeunes artistes en résidence. Et puis, il arrive à ce développement des contacts avec les Américains. Le grand moment de gloire de Mamadou, c'est un concert à Central Park.
De 94 à 98, il ouvre un lieu qui était un superbe lieu qui s'appelle la Villa Tringa, qui était idéalement placé rue Ouaganiouf, en plein cœur de Dakar, avec des chambres pour des résidences d'artistes, une piscine, des studios, un studio d'enregistrement, une salle de répétition, une salle de concert, enfin, il y a des cuisines. Il y avait vraiment tout pour que ça fonctionne. C'est comme ça que Charlot, il venait répéter, les Frères Guisset, les Positive Black Soul. Il y avait tout un tas d'artistes qui venaient travailler au sein de la Villa Tringa. Et à l'époque, en plus, je pense qu'à part le Centre culturel français et le Théâtre national Daniel Sorano, qui était vraiment très national, on va dire, il n'y avait rien. Et malheureusement, cet endroit-là a dû fermer parce qu'il y a eu des soucis de propriétaires, en fait. Nous, on était juste locataires et donc on doit partir. Et Mamadou prend des bureaux tout simples avec quand même de quoi répéter, une salle de répétition. Et il me dit, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. Lançons le festival. On va lancer le festival Africa Fête au Sénégal, comme on l'a fait pendant 20 ans à Paris, aux États-Unis.
L'outil Tringa s'est arrêté, qu'il a relancé le festival avec vous.
Ouais. Le festival à Dakar, on l'a lancé la première édition en 2001. Avec beaucoup d'artistes qui démarraient, et notamment des artistes de la scène hip-hop. Il avait repéré quelques années auparavant, justement, Positive Black Soul, avec qui il avait signé et décollé chez Polygram, donc Universal maintenant, des tournées aux États-Unis, des tournées en Afrique, des tournées et d'autres artistes de hip-hop africains qui avaient été dans la même veine. Donc il y avait dans le festival aussi des résidences artistiques et puis des rencontres professionnelles. Et en fait, Mamadou, son génie, on va dire, c'est qu'il a réussi à organiser des rencontres professionnelles en amont du festival, où il réunissait des producteurs de tous ces pays-là, donc africains et européens aussi, pour parler des problèmes du secteur.
Mamadou, ce qu'il a cherché à faire, c'est à réunir les producteurs africains, et Dieu sait s'il y en avait peu à l'époque, enfin des vrais producteurs, parce qu'à l'époque, qu'est-ce que c'était un producteur africain? C'était une personne qui avait beaucoup d'argent, qui achetait des orchestres, qui achetait des instruments, et qui faisait venir des musiciens, les meilleurs, voilà, et puis qui gérait leur business comme ça. C'est-à-dire que c'est le groupe, que ce soit les instruments, les musiciens, etc., ils étaient la propriété de ces financeurs. Mamadou, il a fait comprendre à des gens qui étaient intelligents en Afrique et qui voulaient organiser des concerts, qui aimaient la musique et qui voulaient travailler avec les musiciens, il leur a fait comprendre que l'essentiel pour eux, c'était de s'unir pour pouvoir organiser des vrais réseaux interpays. C'est la culture, faire exister ces cultures.
Faire exister les artistes, rendre autonome l'artiste.
Exactement. C'est politique. Mais de toute façon, il a toujours été politique.
Et ce réseau, c'est vraiment créé pendant les rencontres professionnelles d'Africa Fête que Mamadou dirigeait. Et à son décès, le réseau est devenu le bureau export de la musique africaine, que j'ai coordonné pendant quelques années et qui était vraiment un réseau de producteurs panafricains pour démontrer que la musique est source de développement économique, est source de création d'emplois et de consolidation d'emplois, et qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux États-Unis pour faire tourner ses artistes, qu'on peut vraiment utiliser le continent africain comme un marché. Et donc Mamadou, il s'était beaucoup investi en politique culturelle, au Sénégal particulièrement, où il a travaillé pratiquement jusqu'à sa mort sur la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, pour une reconnaissance donc du statut de l'artiste. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup d'acteurs culturels et d'artistes qui sont très conscients de tout le travail qu'il a abattu. Il ne faisait pas pour lui, sa vie était derrière lui. C'était vraiment pour léguer un espoir de pouvoir vivre décemment en Afrique et ne pas dépendre de l'Occident, en fait, pour être artiste. Mamadou, il n'était pas branché rap à la base. Hein. C'était, mais Mamadou avait vite compris que déjà le musique hip-hop Wolof, en tout cas le Wolof se prêtait très bien au rap. Il a vu le flow et surtout l'impact politique, le message de rap conscient qu'il avait bien repéré et qui lui plaisait beaucoup. Parce qu'en fait, les rappeurs...
D'autant plus que la chaotique, c'est un peu affadie aussi.
Exactement. Et se disait, les rappeurs, et ils délivrent des messages que les jeunes entendent. Et c'est cette jeunesse-là, finalement, qui peut faire en sorte que... les politiques changent, que les dictateurs changent, donc il avait tout de suite vite senti ça.
Quand même, c'est un des premiers qui avait commencé à produire du rap avec et aujourd'hui, tu sais que c'est le rap qui est organisé. Les rappeurs, eux, se sont organisés dans toute l'Afrique, au moins Afrique de l'Ouest, voire même plus loin jusqu'au Gabon.
Donc il était derrière Didier Wadi.
Bien sûr qu'il a été.
Modèle businessman de Didier Wadi.
Positive Black Soul, c'est Didier Awadi. Bon, eh ben oui, ben c'est quand même.
Il a une vision très autonome ou commerciale.
Awadi, c'est le pur produit de l'école Mamadou. Alors là, non, mais il y a quelque chose dans le crâne, quoi. C'est pas n'importe quoi. Le président d'Afrique, c'est un truc quand même. Donc en fait, Mamadou, il a ses idées, elles ont infusé dans ce business. Ça pouvait pas être ses contemporains, je pense, parce qu'ils avaient, ils étaient formatés sur d'autres formes de pensée en Afrique. Ils pouvaient pas. En revanche, les jeunes rappeurs, les rappeurs, oui, ils ont compris tout de suite son business model.
Soyons plus organisés pour enseigner la vérité. Les vrais textes historiques, les cultes pharaoniques. Un enseignement philosophique typique pour l'Afrique. Il est temps pour vous de savoir que le système occidental ne fait qu'on s'imposer de par son sale esclavage mental. Alors sans beaucoup tarder, il est à dire que ce cela est nécessaire à la survie et l'avenir de l'Éthiopie. Le tout nouveau nom de tout nouveau continent émerge maintenant avec son tout nouveau président.
Ont éliminé les vrais fils de l'Afrique et que les dirigeants de notre continent se diront fils de l'Afrique pour le fric, tant que les peuples d'Afrique ne cesseront de s'entretuer et que les frères et sœurs de la diaspora seront complexés, n'espérons pas envisager une unité africaine car il n'y aura même plus d'Afrique. Nous aurons perdu ce que nous avons de plus précieux, notre mère et notre combat. Positivons. Salam.
J'ai appris beaucoup dans le militantisme que j'ai appris ce qu'il disait Hegel par rapport aux Noirs, comme quoi que les Noirs n'ont pas de culture. J'ai appris beaucoup de choses, d'où vient le racisme des Français ou l'Italien ou l'Espagnol par rapport aux Noirs, parce que dans la Bible, on dit, il y a une partie, le code noir, bon, qui dit que le Noir n'est que, dans une maison ne peut faire que partie des objets ou des meubles de la maison. Donc quelque part, c'est là, je voulais approfondir auprès des Français, en direction des Français ou des Européens, que ce qu'ils disaient leurs ancêtres, c'était faux.
Mamadou, c'est un monsieur. Voilà. Déjà, c'est un monsieur. Et tu sais que c'est un monsieur, c'est pas toi. Il a beau être habillé n'importe comment, avec son espèce de manteau, là, n'importe quoi. Et déjà, quand t'entends sa voix... Ah, tu sais que, voilà, c'est un monsieur. Il sait parler. Il ne parle pas le français que tu parles, mais son français à lui, ouh, il chante, il a une sonorité magnifique. Et puis ça fait des hauts et des liés, des bas, et ça fait oh, comme ça. Une espèce de, je sais pas, il a pourtant pas une énorme cage thoracique, mais il a peut-être du fait de sa stature comme ça. Bah déjà moi, qui suis grand déjà, je le regarde comme ça, de bas en haut, parce que je suis obligé de lever la tête pour le regarder, parce qu'il est grand, il est grand. Et puis il a cette voix-là, il a une voix, une espèce de voix.
Dire que les nègres n'ont pas de culture, ça nous a... Cette vision du monde, pour moi, c'était un peu arriéré, même un peu demi-sauvage. C'est même pas assez sauvage, parce que quand on est sauvage complètement, sauvage, on sait qu'on est sauvage, on est considéré comme tel. Quand on est demi-sauvage, on n'est même pas capable d'être entièrement sauvage. Donc, pour moi, je voulais démontrer au niveau de l'Europe que la culture africaine a apporté beaucoup, que ça soit dans la peinture, que ça soit dans la musique, que ça soit des choses qu'on n'explique pas aujourd'hui, que les nègres aient aussi cultivé autant de cultures, sinon plus, que l'italien, que les français, où on a une culture comme tout le monde. Donc c'est ça qui m'a permis de continuer.
Et voilà, et puis il a ses mains. Oh, mais tu vois les mains de Mamadou? Mais c'est pas des mains, c'est deux fois mes mains. Tu vois, des espèces de mains comme ça, tu sais, les squelettes de mains de d'Ali, là, ben, t'as l'impression que Mamadou, il les a pris comme ça. Et puis, comme il a des mains qui sont fines, maigres, mais qui sont tellement énormes, alors ça fait il a des articulations comme ça, toutes rondes et tout. Et voilà. Et quand il tire la main, oh, tu te sens bien.
Que ça soit la lutte révolutionnaire pour faire la révolution contre l'injustice, la lutte culturelle, je pense que c'est bien d'avoir créé Africa Fête, de faire connaître aussi bien les artistes africains venant de l'Afrique du Sud, à l'époque avec Johnny Clegg, que les artistes africains comme Youssou N'Dour ou comme Zao de Congo. Parce que mon affaire, si vous regardez bien, moi, je suis très panafricain. Je suis pas un africain nationaliste d'une nation par rapport aux cultures africaines. Toutes les cultures africaines, il faut faire en sorte de les faire connaître pour qu'on sache que il n'y a pas une culture dominante en Afrique, comme en Europe, entre l'allemand, germanique, français, latin, italien, que ce soit Asanti, que ce soit Zulu, que ce soit Bantu, que ce soit Mandingue.
Ah, voilà, je serre la main de quelqu'un, là, et c'est un homme. C'est un homme.
Looking for Mamadou Konté, avec François Bensignor, critique musical, Bernard Dreano, militant des révolutions, président de CDTIM, Cécile Rata, directrice du Festival Africa Fête, Jacques Sansin, militant révolu, président de Fréquence Plurielle, cher Tidiane Sec, musicien, chef d'orchestre. Archive. Émission Mots d'ailleurs, 2005, pour Radio Grenouille. Archive INA, Delphine Desbiens. Attaché des productions, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, José Bernays. Mixage, Pierrick Charles. Un documentaire de Abdourahmane Ouabéry, réalisé par Angélique Thibault.
Trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.